Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Bamako et partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani, voici la matinale. Affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali, la mission de haut niveau de la CEDEAO est attendue ce jeudi à Bamako. Objectif, obtenir une résolution de la crise à l'amiable. Les numéros verts sont mis à la disposition des populations pour déclarer des actes ou des cas susceptibles de danger. Mais le service en charge de ces numéros regrette que peu de citoyens connaissent leur utilité. Le bâtiment national de retour après près de 20 ans d'absence avec un nouvel album intitulé Danaya. Pourquoi ce titre? La réponse dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo, mise en onde Nohum Diré. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les présidents du Ghana, du Togo et de la Gambie arrivent ce matin à Bamako. Envoyés par la CEDEAO, ils tenteront d'obtenir la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. La délégation de chefs d'État réussira-t-elle à dénouer cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Les avis des acteurs politiques et des observateurs divergent sur la question. Le point avec Assetou Kanté.
Cette histoire aurait pu avoir un dénouement heureux si les deux chefs d'État avaient mis de côté leur ego, explique Mahamadou Doucouré, vice-président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusu Mali. Il souligne que l'arrivée des chefs d'État de la CEDEAO est le début d'une solution.
Les démarches qu'ils ont eu à faire, si on les avait effectuées dès les premiers jours de l'affaire, je prends par exemple un exemple, un président ado qui prend son avion et tombe à Bamako, il dit à son jeune frère, je suis venu chercher mes gars. Quel que soit le comportement ou les griefs que vous avez détectés dans cette affaire-là, même s'ils ont failli, remettez-moi-les, je les ramène chez moi. Je crois que l'affaire était réglée.
Cependant, pour les responsables du Parti pour le Renouveau et le Développement PRD, il faut plutôt laisser la justice malienne s'occuper de cette affaire et jure après de la grâce présidentielle pour ces militaires ivoiriens. Assetou Sangaré, membre du PRD.
Faites un jugement, je le répète, parce que c'est la seule chose que je vais dire à ce dossier parce que je ne vois pas autre façon. Donc, il faut faire ce jugement, les juger en fonction de leur infraction au crime et ensuite utiliser la voie diplomatique. La grâce présidentielle est utilisable.
Le politologue Dr Abdoul Sogodogo préconise la poursuite de la médiation togolaise. Selon lui, c'est grâce à cette médiation que 3 des 49 soldats ivoiriens ont pu être libérés.
Il serait préférable que le Mali et la Côte d'Ivoire retournent dans la médiation togolaise parce que le Togo, c'est quand même un pays frère. Au Mali et à la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas lui mettre dans une telle mission et du jour au lendemain faire comme si le Togo était malpropre.
Attendant un dénouement de la situation, les yeux des uns et des autres sont tournés vers l'arrivée de la mission de haut niveau de la CEDEAO, composée des présidents togolais, ghanéens et gambiens.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le retrait du Mali de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, est définitif. L'information est rapportée par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'était lors d'une interview accordée à la Voix de l'Amérique lundi dernier. Le ministre Diop a indiqué que cette décision est motivée par l'opposition de certains États du G5 Sahel à accepter la présidence du Mali. Les détails dans ce reportage de
Pour Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, le Mali a tourné définitivement la page du G5 Sahel et ne compte plus revenir. Pourtant, le diplomate explique que les autorités maliennes restent ouvertes à tous les mécanismes de sécurité collective avec les pays voisins. Mais l'adhésion du Mali à ce mécanisme africain est conditionnée à certaines exigences.
Nous ne pouvons pas appartenir à une organisation si elle n'est pas véritablement africaine. Si son leadership n'est pas véritablement africain, nous ne pouvons pas être dans une organisation où le leadership est exercé par des autorités françaises qui ne sont pas membres de cette organisation et qui sont dans une posture d'hostilité et de déstabilisation du Mali. Pour toutes ces raisons, le Mali ne considère pas revenir dans le G5 Sahel.
Toutefois, des spécialistes de questions sécuritaires soulignent que cette sortie du Mali du G5 Sahel pourrait être profitable aux groupes terroristes de la zone des trois frontières. Ce retrait définitif pourrait davantage isoler le Mali, regrette Ibrahim Soumaré, ancien ambassadeur et analyste en diplomatie et en stratégie.
Ça peut être être un couloir destructeur pour les groupes armés terroristes vont en profiter pour pouvoir non seulement se réorganiser. Le deuxième aspect, ça peut également donner l'impression que le Mali s'isole par rapport à la stratégie qui consiste à mutualiser les efforts en commun pour pouvoir venir à bout de ces groupes armés terroristes.
Notons que le gouvernement du Mali avait expliqué ce retrait par une perte d'autonomie de décision, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, le Mali ne peut pas être le dindon de la farce d'une organisation où il n'est pas respecté.
Et reportant signé Miranda Kilou Maïga, parlons à présent de rentrée scolaire. Les élèves reprendront le chemin de l'école lundi prochain 3 octobre. À moins d'une semaine de la rentrée, plusieurs administrations scolaires procèdent au dernier réglage. Le nettoyage des salles, les désherbages des cours, le noircissement des tableaux sont les travaux en cours dans de nombreuses écoles du centre, du nord et du sud du pays. Les détails avec Abdoulaye Touré.
À Yoroso, au sud du pays, le comité de gestion scolaire s'active pour la rentrée scolaire. Au lycée public de la localité, les CGS procèdent notamment au nettoyage des salles, au désherbage de la cour et d'autres activités nécessaires à la reprise. Abel Sangaré, président du CGS du lycée public de Yoroso.
Après le nettoyage de la cour, les tableaux qui ne sont pas à jour, nous faisons tout pour acheter de l'aldoisine pour les renoircir. S'il y a des bancs qui sont défectueux, nous appelons les menuisiers pour les reconfectionner.
C'est le même constat à Nyono, dans la région de Ségou. Moussa Aktoha, directeur du second cycle B de la localité, rassure que tout sera prêt avant le jour de la rentrée.
Il y aura le séminaire des directeurs avec M. le Dekar pour enfin faire le conseil des maîtres pour que dès le lundi, les cours commencent.
À Ansongo, au nord du Mali, malgré le contexte sécuritaire difficile, les préparatifs vont bon train. Nous affirme Ousmane Abdelrazak Meiga, directeur de l'école fondamentale Ansongo 2C. Il ajoute que le personnel administratif et les enseignants sont déjà sur place.
Les gens sont là pour le nettoyage des salles de classe, pour désherber les mauvaises herbes qui poussaient. Les directeurs sont là, les enseignants sont toujours présents. Donc, on attend seulement le jour J.
À moins d'une semaine de la rentrée, plus de 1600 écoles sont fermées dans le pays, selon le rapport 2021 de l'UNICEF.
Restons toujours dans le registre de la rentrée scolaire. À Ségou, les parents d'élèves s'activent dans l'achat de fournitures scolaires, mais ils trouvent les coûts élevés. Les commerçants imputent cette cherté à la conjoncture économique du moment. Parents et commerçants appellent les autorités a trouvé une solution. Le reportage de notre envoyé spécial à Ségou, Issiaka Koulibaly.
Les fournitures scolaires sont vendues un peu partout dans la ville de Ségou. On peut en trouver dans les librairies et au marché. Toutefois, les prix sont chers et regrettent des parents d'élèves.
Les fournitures coûtent cher. J'ai mes petits-enfants là auxquels je dois payer les cahiers et les livres. Ah, j'ai fait un crochet là-bas, tout coûte cher.
Je suis déplacée du nord de Kidal. Tout est cher. Je suis veuve, j'ai 5 enfants. C'est un peu difficile de payer leurs cahiers, les sacs, les crayons, les compas.
Mais des commerçants estiment que tous les prix ne sont pas élevés. Écoutons leur explication.
Pour nous dire qu'ils ont cher, d'autres restent à l'ancien prix. Ce qu'ils ont monté, c'est les cahiers de 100 pages, les cahiers de 200 pages, les 50 pages, il n'y a pas de changement. Les restes là, le prix c'est abordable. Que faire nous? On paye à cher, donc on va cher.
Cette année, nous avons l'inquiétude même à la mévente.
Pour une réduction des prix de ces fournitures scolaires, parents d'élèves et commerçants demandent une meilleure implication des autorités du pays. Issiaka Koulibaly de Ségou pour Studio Tamani.
L'utilisation des numéros verts est encore méconnue au Mali. Ils sont mis à la disposition des populations pour déclarer des actes ou des cas susceptibles de danger. Cependant, les services en charge de ces numéros déplorent que certaines personnes les utilisent à d'autres fins. Les citoyens, quant à eux, se plaignent de la lenteur des interventions après les alertes. Jihada Tamaïga s'est intéressé au sujet. Voici son reportage.
Il y a plusieurs numéros d'urgence au Mali appelés numéros verts. On peut citer ceux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, du ministère de la Santé, entre autres. Pourtant, certaines personnes interrogées affirment ne pas connaître l'existence de ces numéros verts.
J'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Je n'en ai pas non plus. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Je ne connais pas. Moi, je n'ai pas connaissance de l'existence des numéros verts. Je ne suis pas au courant de ça et je n'en possède pas. Je n'ai jamais travaillé avec. Je ne connais pas son importance et c'est ma première fois de l'attendre.
Nous n'avons pas besoin ici, généralement dans la capitale, parce que nous sommes en sécurité ici.
Par contre, d'autres se plaignent également de la lenteur des interventions après le contact de ces services.
C'est les numéros qui sont donnés par nos autorités. C'est bien, ça permet de protéger la population, de sauver des vies. La seule chose que je déplore, beaucoup de amis me disent que souvent quand ils appellent ce numéro, c'est sous-répondeur ou bien c'est pas décroché.
Non, on peut pas les numériser parce que ce sont des numéros à 8 chiffres. C'est un peu long. Bon, ils peuvent diminuer à 3 chiffres comme ça. Tout le monde pouvait bicher cela.
Les responsables des services, quant à eux, rassurent les responsabilités à secourir les citoyens en danger. Mais ils déplorent le mauvais usage des numéros verts par certains. Commandant de police Beau Sangré, chef du service de transmission et de télécommunication de la police nationale.
On est surtout confronté à des gens qui vont appeler pour ne pas signaler le problème, mais seulement pour faire des fausses alertes. On peut se retrouver au moins entre plus de 400 appels par jour. Et nous intervenons pratiquement dans tous ces cas-là. Les gens déplorent la lenteur des interventions, mais la police intervient beaucoup. Mais je pense que des efforts sont en train d'être mis en œuvre par les autorités en vue de corriger ces quelques problèmes-là.
Le commandant Beau Sangaré ajoute que la longueur des numéros ne dépend pas d'eux, mais de leurs partenaires, dont les opérateurs économiques. Il a par ailleurs indiqué que des campagnes de sensibilisation sont en perspective pour informer la population sur l'importance de ces numéros verts.
Reportage signé Giadata Maïga. Parlons de musique à présent. Le Badima National signe son retour sur la scène musicale après plusieurs années. L'Orchestre National vient de sortir un nouvel album intitulé Danaya, qui veut dire confiance en français. Selon les responsables du Badima, ce titre fait référence aux efforts consentis par les autorités pour redonner une nouvelle image à cet orchestre national. Le reportage de Kouma Finkeita.
Après quelques années de stand-by sur la scène musicale, l'Orchestre National vient de réapparaître avec un nouvel album, Danaya. Lancé le 20 septembre dernier, le nouveau disque composé de 10 titres met en exergue le sujet d'actualité du pays. Idrissa Traoré est le directeur artistique du Badima National.
On a fait un titre de Corona, donc maintenant, Danaya, c'est tout un titre de Kanaga qu'on a repris. Après, on a aussi Tchampuruku. En Mianga, ça veut dire la fraternité. Et soyons soudés, ça parle beaucoup de ça en soirée. On a plus des instruments modernes que traditionnels.
Selon le directeur artistique, ce long silence de Badima National s'est justifié par un manque de personnel. Il se réjouit de l'engagement des autorités de transition qui a permis le retour de l'orchestre sur la scène nationale. C'est ce qui justifie, selon lui, le titre même de l'album Danaya, qui veut dire confiance. Idrissa Traoré, directeur artistique de Badima National.
C'est composé de fonctionnaires de l'État, des contractuels du palais et des bénévoles. On n'a que 4 ou 5 fonctionnaires. Donc on nous a appelés puisqu'on a vraiment besoin que ça se relève. C'est ça, pour cela on a donné Danaya. Ils nous ont fait confiance, ils nous ont appelés. Le palais, le ministère de la Culture qui ont pris tout en charge.
A rappeler que le Badima National a vu le jour dans les années 70. Il est une structure étatique au palais de la Culture. Déjà, 2 albums sont sur YouTube, Nisondia et Badia.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
8h passées de 13 minutes se referme cette édition, mais avant, nous vous rappelons l'arrivée ce matin d'une délégation de chefs d'État envoyée par la CEDEAO pour tenter de trouver une résolution de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire à l'amiable. Au sein de l'opinion nationale, les avis divergent sur les chances de réussite de cette mission. Les numéros verts méconnus par les populations mis à la disposition pour déclarer des actes ou des cas susceptibles de danger. Les populations les utilisent à d'autres fins, une situation que déplorent les services en charge de ces numéros. Et enfin, le Badima National qui signe son retour après près de 20 ans d'absence avec un nouvel album intitulé Danaya. Vous venez d'écouter ce reportage, cette émission. Cette édition a été présentée par Sikou Gadjigo, mise en onde de Nuhum Diré. Vous pouvez la retrouver sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321 sur la plateforme Viamo. L'accès à l'information fait partie des nombreux défis auxquels les journalistes maliens sont confrontés. C'est dans ce contexte qu'est célébré ce 28 septembre, qu'a été célébré plutôt ce 28 septembre, la journée internationale de l'accès universel à l'information de Bamako à Ségou. En passant par Bafoulabé et Bankass, les hommes de médias affirment rencontrer des difficultés dans la collecte de l'information, alors que les citoyens, quant à eux, demandent plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Le magazine est présenté par Amsi Toutouré.
Pour ces citoyens, les journalistes doivent s'appliquer davantage dans leur travail et éviter les courses aux scoops, surtout en cette période difficile pour le pays.
Dans certaines informations, ils mentent. Et si tu racontes ces informations quelque part, c'est comme si tu avais menti. Et cela peut causer la honte.
Si tu te bases sur toutes les informations qu'on donne, la plupart de ces informations sont fausses. Pour connaître une information, il faut aller jusqu'à la source, car ce sont les citoyens qui écoutent les journalistes. Il se peut que cette information donnée peut inciter la population à se retourner contre les pays. La situation dans laquelle nous vivons, nous avons besoin d'informations fiables.
Que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux ou à la radio, en donnant l'information, il est important qu'ils donnent des informations réelles pour que tout le monde puisse comprendre.
L'insécurité, l'accès aux autorités nationales et locales sont entre autres difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes. À cela s'ajoute la méfiance des autorités vis-à-vis des hommes de médias.
L'accès à l'information, de façon globale, ça va ici. Il y a deux difficultés majeures. La première, c'est la connexion concernant les médias en ligne. La deuxième difficulté, c'est le programme des organes de presse, notamment des radios. Vous verrez peut-être qu'il y a des radios, l'information, c'est une fois par jour.
À Bankass, nous fournissons beaucoup d'efforts pour avoir les informations. Avec l'inscrité là, les gens ont vraiment peur. Quand vous donnez l'information et que vous donnez le nom, ça risquera en tout cas de compromettre la personne.
Parfois, quand on essaye de rentrer en contact avec les autorités pour recueillir des informations, elles ne sont pas disponibles. Au-delà de la disponibilité, il y a aussi la responsabilité, parce que la plupart des services qui sont basés ici à Bafoulabé sont rattachés vraiment à aux directions régionales. Donc il faut une autorisation souvent.
Je suis journaliste à Bamako. Au Mali, quand même, la liberté de la presse est un peu bafouillée. C'est toujours censuré. Les autorités se méfient chaque fois des hommes des médias.
À rappeler que cela fait 2 ans jour pour jour que le journaliste Hamadou Nialibouli, correspondant de Studio Tamani à Douanza, a été enlevé entre Bamako et Sévaré. Comme lui, Hamadou Ndiko et Olivier Dubois sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs.